me fournir le tableau de papier, car comme la fois dernière, je me risque à vous laisser voir à quel point je suis malhabile quand il s'agit de dessiner, mais il s'agit d'illustrer le propos. Dans le recueil des psaumes, je lirai le 19e, psaume 19. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. Le ciel raconte la gloire de Dieu, toutes les étoiles annoncent ce qu'il a fait. Chaque jour raconte cela au jour suivant, chaque nuit le fait connaître à la nuit qui la suit. Ce n'est pas un discours, il n'y a pas de parole, aucun son ne se fait entendre, mais leur message parcourt toute la terre et il se répand jusqu'au bout du monde. Là-haut, Dieu a planté une tente pour le soleil. Le matin, celui-ci est comme un jeune marié qui sort de sa maison. Il s'élance comme un champion, heureux de courir sur la route. Il se lève à un bout du ciel, il termine sa course à l'autre bout, et rien n'échappe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite. Elle redonne la vie. Les ordres du Seigneur sont clairs. Il donne la sagesse aux ignorants. Les exigences du Seigneur sont justes. Elles rendent le cœur joyeux. Les commandements du Seigneur donnent la lumière. Ils permettent de voir clair. Le respect du Seigneur est une chose très belle. Elle reste sans cesse valable. Les décisions du Seigneur sont vraies. Elles sont toujours justes. Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or pur. Elles sont plus délicieuses que le miel le plus doux. Aussi, tes décisions m'avertissent, moi, ton serviteur. Si je les garde, j'aurai une belle récompense. Qui peut connaître ses erreurs? Pardonne-moi les fautes que je ne vois pas. Éloigne-moi des orgueilleux, qu'ils n'aient aucune influence sur moi. Ainsi je serai sans défaut, on ne pourra pas m'accuser de fautes graves. Qu'elles te fassent plaisir, les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Seigneur, mon solide rocher, mon défenseur. Dieu est, avons-nous rappelé comme première vérité lors de l'Institut biblique du mois d'octobre. Mais comment le connaître? Quel est l'accès que nous avons à la connaissance de ce Dieu réel, super réel, qui s'atteste? C'est la doctrine de la révélation qui répond à cette question. C'est en se révélant, le mot duquel le terme de révélation dérive, que Dieu nous permet de le connaître. Le terme est un terme imagé, en fait. Révéler veut dire dévoiler. C'est un mot qui a exactement la même construction, qui correspond tout à fait à dévoiler. C'est comme quand vous avez une couverture sur le piano, vous savez, parfois où il y a des caches que l'on met sur les pianos, vous ne pouvez pas voir le piano, vous dévoilez le piano en soulevant la couverture, la bâche. Révéler pour Dieu, c'est enlever le voile qui empêche de le discerner et de le connaître. Et l'image se trouve à diverses reprises dans l'Écriture, et y compris l'image de ce voile qu'il faut enlever pour que nous puissions voir le Seigneur tel qu'il est, et ainsi le connaître. Il y a une autre formule qui revient très très souvent dans la Bible, en fait encore plus souvent que le mot de révélation, que le verbe se révéler, c'est la formule de parole de Dieu. Quelle est la façon principale dont Dieu se révèle, lève le voile, d'après la Bible? C'est le mode de la parole, en parlant. C'est en parlant qu'il se fait connaître. Et c'est pourquoi, même pour certains prophètes, nous avons la formule, la parole de Dieu qu'il vit. Il a eu une vision, ça a été visuel, mais ce qui importe, c'est tellement la parole par laquelle Dieu se fait connaître, en accompagnant la vision, que la formule, c'est même la parole de Dieu. Camos, par exemple, a vu. Pourquoi cette préférence pour la parole? Elle est rare. Si vous comparez aux autres religions et à leurs prétendues révélations, vous trouverez que pour la plupart, ce n'est pas la parole qui est mise en valeur comme elle l'est dans la Bible. C'est ou bien le sens de la vue, ou bien la forme du livre, par exemple, dans le Coran. Je crois qu'on peut dire que la religion de la parole, c'est vraiment la religion de la Bible. Alors, pourquoi? Pourquoi cela? Il ne faut pas dire que tout ce qui passerait par la vue serait condamné, parce que on serait obligé d'exciser de la Bible de nombreux passages qui, quand même, parlent aussi de la vue. Et c'est le Seigneur qui nous a donné des yeux pour que nous puissions voir, et aussi les yeux de notre cœur. Mais je pense qu'on peut dire que si la parole est privilégiée, qui correspond au sens de l'ouïe, la foi vient de ce qu'on entend, dit l'apôtre Paul, c'est parce que ce qui s'offre à notre vue comporte une tentation plus forte d'idolâtrie. Quand nous voyons, il y a une sorte de présence qui est là, puis ça paraît disponible, et donc il est facile pour nous d'en faire une idole. Alors que la parole qui nous est adressée, c'est quand même moins facile. Il est clair que c'est un moyen de relation avec la personne souveraine qui parle, et ainsi l'idolâtrie est liée à l'image. Ce sont des images qui sont transformées en faux dieux. Et c'est sans doute pour cela que la Bible met tellement l'accent sur le mode de la parole. Alors je pose un certain nombre de questions auxquelles je vais tenter d'apporter la réponse biblique à propos de la révélation parole de Dieu. Et vous allez pouvoir voir ainsi que comment nous allons progresser. D'abord, pourquoi? Pourquoi la révélation? Ensuite, où? Où cette révélation? De quelle façon? Dans la Bible. Comment en être sûr? Et quel guide suivre pour comprendre? Pour bien recevoir. Voilà les questions que, bien sûr, d'une manière très très schématique et rapide, parce que vous voyez, c'est beaucoup de sujets pour une séance, mais nous revoyons ensemble les fondements, alors il faut ne pas trop s'étendre. Telles sont les questions que je voudrais maintenant traiter. Pourquoi la révélation? Pourquoi ne veut-on pas dire, eh bien voilà, Dieu est là, eh bien nous n'avons qu'à ouvrir les yeux pour le connaître. Nous avons dit que celui qui nie Dieu, selon l'expression d'un théologien, c'est comme celui qui nie le monde. Comme il y a eu des philosophes pour dire que le monde n'existe pas, c'est aussi fou de dire que Dieu n'existe pas. Alors, pour connaître le monde, apparemment, nous n'avons pas besoin de révélation. Peut-être, je dis apparemment parce que si on cherchait, mais là je n'entre pas dans l'exploration de ce point précis, pourquoi avons-nous besoin d'une révélation pour connaître Dieu? Je dis deux raisons principales. Raison de hauteur et raison de personnalité. Raison de hauteur, Dieu est le Dieu très haut. Il habite une lumière inaccessible, dit la première épître à Timothée au chapitre 6. Le verset, ici, c'est le verset 16. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Bon, principalement parce que nos pensées ont dévié, elles devraient être conformes. Mais quand même, il y a cette distance infinie du Créateur. Tous les millions de galaxies, tout ça, ce n'est que l'effet d'une miette de sa puissance. Le Dieu infini. Alors, pour atteindre jusqu'à lui, nous ne pouvons pas dire, oh bien, c'est facile pour nous. Nous sommes poussière, nous ne sommes rien par constitution face à ce Dieu. Donc nous avons besoin qu'il descende jusqu'à nous, qu'il condescende dans sa bonté jusqu'à nous parler. Ça, c'est la première grande raison. Puis la deuxième, C'est la raison que je dis de personnalité. Nous avons vu que Dieu est un Dieu personnel la fois dernière. Or, c'est le propre des personnes de ne se laisser connaître que par une démarche libre. Une chose, elle est là, offerte à l'inspection de qui le veut. Mais une personne ne se connaît que si elle se livre. Et l'apôtre Paul le souligne à propos de la révélation de Dieu. Il dit, nul ne connaît les choses d'un homme, d'une personne, ses secrets intimes, sinon l'esprit de cette personne qui est en lui. Ou en elle, personne. De même, nul ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. L'apôtre Paul emploie, au chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens, cette analogie de la personnalité. Une personne peut jouer un personnage, mais faux, c'est pas vraiment la personne. Il faut une démarche de liberté. Et là, j'ai un petit dessin pour illustrer cela. Premier petit dessin. Vous avez deux formes qui sont assez voisines, mais une pomme, une chose, un cœur. Une personne. Avec une pomme, vous pouvez prendre un couteau, couper en deux, et vous voyez ce qu'il y a dans la pomme. Connaissez votre pomme, voyez s'il y a un verre dedans. Non. Mais pour le cœur, si vous coupez le cœur en deux, il n'y a plus de cœur. Le propre du cœur de la personne, c'est que c'est seulement si ça passe à la bouche, si la personne livre son cœur, si de l'abondance du cœur, sa bouche parle, qu'il est possible de savoir ce qu'il y a au fond, s'il y a un verre, non, au fond du cœur. Voilà, une illustration sur ce contraste. Dieu est un Dieu personnel, et c'est une démarche de liberté de sa part qui fait qu'il se rend connaissable. Où la révélation alors ? Si Dieu doit se révéler pour que nous le connaissions, puisqu'il a décidé de se faire connaître, autrement nous ne serions pas là et nous ne pourrions rien dire, puisqu'il a décidé de se faire connaître, où se fait-il connaître? On peut toujours faire des classifications différentes, dans tous les domaines, on peut ranger comme ci, comme ça, mais la distinction principale, la plus utile, je crois, celle que l'on fait habituellement en doctrine chrétienne, c'est la distinction entre la révélation générale et la révélation spéciale de Dieu. Révélation générale, c'est la révélation qu'il donne de lui-même à tous les hommes, fondamentalement. C'est une révélation qui atteint tous les humains, jusqu'au bout de la terre, le message court et atteint tous les hommes, rien ne se dérobe à sa chaleur. Le soleil est là comme un symbole du Seigneur dans ce rayonnement de sa révélation générale. Il s'agit de la révélation que Dieu fait de lui-même dans ses œuvres et dans le maintien de ses œuvres, ce qu'on appelle sa providence. Comme un artiste se livre dans ses œuvres. Je pense que si l'on contemple avec assez de discernement les œuvres de notre sœur Nicole Berger, on peut deviner certains des traits de sa personnalité. Elle se livre, librement, dans les œuvres qu'elle accomplit, et puis il y a aussi ses capacités, ses compétences, son talent, qui se manifestent. Elle se fait connaître par ses œuvres. De même, le Seigneur se fait connaître par ses œuvres. Ses perfections invisibles, sa puissance éternelle, sa divinité, ce qu'il est, se voit pour l'intelligence. C'est pas comme à l'œil, dans l'original. Se voit pour l'intelligence dans ses ouvrages, depuis la création du monde, dit l'apôtre Paul. C'est dans ce sens que le ciel et les étoiles, comme le psaume 19 le dit, proclament la gloire de Dieu. C'est un message qui va partout, et cela inclut aussi la constitution de l'être humain. Le point sur lequel l'apôtre Paul insiste au chapitre 2 de l'épître aux Romains. Et Dieu maintient ses œuvres. Ses œuvres s'épanouiraient dans le néant s'il ne les soutenait pas, s'il ne continuait pas à s'occuper d'elles. C'est lui qui donne leur nourriture à tous les êtres vivants, disent beaucoup de psaumes. Et dans ce maintien, cette activité de providence, Dieu aussi se montre tel qu'il est, fidèle, généreux, parfaitement sage. Voilà comment Dieu se montre dans ses œuvres et la conservation de ses œuvres. Je signale juste au passage, parce que le mot souvent n'est peut-être pas compris, que le mot providence veut dire que Dieu pourvoit. Dieu pourvoit aux besoins de toutes ses créatures et leurs besoins d'être maintenus dans l'être même qu'il leur a donné. Donc ça, c'est une première ligne de la révélation de Dieu. Mais cette révélation dans les œuvres de Dieu souffre d'insuffisance, étant donné le péché qui est entré dans le monde, étant donné le choix funeste que l'humanité a fait, se détournant de Dieu. Et du coup, il y a une deuxième grande forme qui est la révélation spéciale. La révélation spéciale de Dieu, c'est celle de ses interventions. Quand, dans l'histoire, Dieu fait signe particulièrement, Dieu communique spécialement, révélation spéciale. Alors il le fait de façon diverse, et je pense qu'on peut dire qu'il y a ses œuvres, en particulier de salut, de jugement et de salut, de jugement aussi. Il montre quel il est, les grands événements historiques qu'il conduit et qui démontrent ses jugements et qui sont aussi des actes de délivrance. Il y a les miracles, plus particulièrement. Les miracles sont appelés des signes, très souvent dans l'Écriture. Dans l'Évangile de Jean, c'est le seul mot qui est employé pour parler des miracles de Jésus, des signes, parce qu'ils sont porteurs de sens. Il s'agit de déchiffrer, de comprendre ce que le Seigneur veut dire par ces miracles. Et il y a les miracles de communication, là on est à la limite par rapport à la parole, des visions, des songes, des apparitions, des envois d'anges, qui sont aussi des modes que le Seigneur peut employer. Et puis il y a les prophètes, alors ça c'est le mode sans doute principal au long de l'histoire. L'Épître aux Hébreux, récapitulant cela, dit Dieu à plusieurs reprises et de plusieurs manières à parler à nos pères par les prophètes. Oui. C'est par les prophètes, ils sont là pour ça, que Dieu communique sa révélation spéciale. Il parle par eux. L'idée même de prophétie, c'est « je mets mes paroles dans ta bouche ». C'est ce que le Seigneur dit à Jérémie lorsqu'il l'appelle au ministère prophétique au premier chapitre de son livre. « Je mets mes paroles dans ta bouche ». Le prophète est le porte-parole de Dieu. Et puis suprêmement, il est prophète, mais il est tellement plus que prophète qu'il faut dire qu'il y a encore une forme supérieure de la révélation spéciale. Dieu, ayant parlé à nos pères par les prophètes, en ces temps qui sont les derniers, c'est l'aboutissement du plan de Dieu, nous a parlé par le Fils, celui qui est le Fils, pas seulement un prophète, qui est l'empreinte de la substance même de Dieu, le resplendissement de sa gloire, qui est l'expression parfaite de Dieu lui-même, venu jusqu'à nous. La personne de Jésus-Christ, c'est la forme suprême de la révélation spéciale. Alors ce qu'on peut noter, c'est que cette révélation spéciale nous touche essentiellement sous la forme de la parole prophétique écrite, mise par écrit, c'est-à-dire la Bible. Car Jésus-Christ, nous le connaissons par le témoignage de la Bible, certes accompagné de l'Esprit. Il ne s'agit pas seulement de signes d'imprimerie sur une page. L'Esprit de Dieu accompagne cette parole écrite. Et il y a donc un rapport vivant qui s'opère avec le Seigneur Jésus, invisible mais présent. Mais quant à la connaissance, quant à ce qui nous permet de parler de lui, de dire quel il est, c'est par la Bible. Et tout autre Christ que celui de la Bible est un Christ forgé par l'imagination des hommes et qui n'a aucun titre, aucun droit à se prétendre Seigneur. Donc, concrètement, la parole des prophètes, les grands actes rédempteurs de Dieu au cours de bien des siècles d'histoire et la personne de Jésus-Christ nous sont accessibles par le moyen de la Bible. Ce qui fait que la réformation, le grand mouvement de réveil et de redressement du christianisme au XVIe siècle avait comme slogan l'écriture, par l'écriture seule. Par l'écriture seule. Ça ne veut pas dire que les autres formes sont niées, mais concrètement, nous avons accès aux autres formes par la Bible. Donc c'est pour ça que la Bible doit être tellement centrale. Alors j'ai promis que je disais quelques mots sur les insuffisances de la révélation générale. La révélation générale souffre dans notre situation de deux ou trois inconvénients. Il y a d'abord le fait que toute révélation d'une personne par ses œuvres est quand même un petit peu difficile à bien déchiffrer, à coup sûr. On peut se tromper quand même quand on essaye d'imaginer quel était l'artiste en considérant le tableau. Nous le savons. Donc, le fait que ce ne soit pas une révélation par une parole directe rend un peu plus difficile pour nous d'en tirer la connaissance et nous sommes susceptibles de déraper plus facilement. Ça, c'est une première difficulté. Mais la deuxième difficulté, c'est que cette révélation, étant la révélation de la création et du maintien de la création, ne comprend pas directement la rédemption. Pour nous, pécheurs, de savoir que c'est un Dieu qui a une puissance éternelle, qui est un Dieu saint, mais c'est terrifiant, c'est tout, c'est terrifiant. Et du coup, cela peut nous détourner de lui par angoisse, par terreur. La révélation générale ne nous propose pas le message de la rédemption qui est spéciale. Alors, je suis d'avis, mais là, ça se discute entre théologiens, hein, mais je suis d'avis qu'en fait, indirectement, on peut deviner le message de la rédemption parce qu'il y a la providence. Parce que Dieu se montre un Dieu sage et saint, mais aussi plein d'amour, déjà dans la création, et que, à partir de la création, nous devons nous rendre compte que nous ne pouvons pas compenser pour nos péchés par aucune bonne œuvre, que nous sommes perdus en nous-mêmes. Si Dieu nous maintient dans cette vie terrestre, si Dieu n'annule pas l'histoire, si Dieu poursuit un dessein mystérieux à travers les temps, il est, je dirais, raisonnable de dire c'est qu'il doit avoir un dessein de salut. C'est que ce Dieu plein d'amour qui se révèle dans sa création, s'il maintient sa création, doit vouloir la sauver. Donc indirectement, je dirais qu'on peut deviner. Mais c'est quand même indirect. Et il faut généralement, je pense, pour ceux qui, n'ayant pas été atteints par des missionnaires, ont pu le discerner, il a fallu sans doute aussi des révélations spéciales de Dieu qu'il leur parle à eux-mêmes directement. Je crois que c'est arrivé, qu'il y a quelques attestations. Mais c'est quand même, quant à la révélation générale, une insuffisance. Il n'y a pas clairement le message de la rédemption. Et puis, il faut ajouter encore, troisième point, qu'elle est abîmée par le péché, cette révélation générale. C'est pas seulement le tableau tel qu'il est sorti, je dirais, des mains de notre sœur, ou de Jacques Richard, c'est le tableau de Jacques Richard. Mais il y a d'horribles garnements qui ont tout déchiré, qui ont tout barbouillé, donc il faut retrouver, mais le tableau est un tableau abîmé que le tableau de la création. Même si Dieu maintient encore, le péché rend beaucoup moins facile à lire cette révélation. Et c'est pour ça que tant de gens autour de nous achoppent. Ils disent, mais voyons tout ce mal, mais c'est horrible tout ce mal dans le monde. S'il y avait un Dieu... Parce qu'ils attribuent à l'auteur ce qui est la défiguration de l'œuvre de l'auteur, ce qui est un horrible barbouillis par-dessus, mais ça rend plus difficile. C'est pour ça qu'il a fallu une révélation spéciale. Mais Soulignons bien quand même que la révélation générale est présupposée, que sans la révélation générale, il ne pourrait pas y avoir de révélation spéciale, parce qu'il faut la capacité qui fait partie de la révélation générale de la création pour l'homme de recevoir le message. Il faut que le langage puisse servir à la parole de Dieu. Or, le langage vient de la création. Donc, il y a toujours ce présupposé de la révélation générale, mais c'est vrai que, en pratique, pour connaître Dieu, c'est à la révélation spéciale que nous allons, et donc à la Bible. Alors, ayant mis ce point, il faut maintenant préciser sous quelle forme, de quelle façon, dans la Bible, la révélation spéciale nous atteint. Je l'ai déjà dit, c'est la parole prophétique qui a été mise par écrit. Le prophète est celui qui parle au nom de Dieu. La Bible est appelée parole prophétique, et c'est poussé, ils n'ont pas parlé d'eux-mêmes, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ensuite, ça a été mis par écrit, parfois sur l'ordre exprès de Dieu. C'est ce que la seconde épître de Pierre, à la fin du premier chapitre, indique pour la production de l'Écriture. Voilà le point principal. La Bible est appelée parole de Dieu parce qu'elle a été émise par des hommes qui étaient porte-parole de Dieu. Et ils étaient porte-parole de Dieu, prophètes au sens large. Hein, Abraham aussi est appelé prophète. Et les apôtres sont aussi prophètes. Ils étaient porte-parole de Dieu grâce à l'Esprit qui les portait, les gouvernait, faisait qu'ils n'apportaient pas leur propre pensée, mais que l'Esprit leur faisait présenter la pensée même de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Ces hommes ont été inspirés par Dieu, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu était en eux, les guidait, et c'est pourquoi on parle de l'inspiration des Écritures. Ça veut dire simplement que la Bible est la parole prophétique émise sous l'action de l'Esprit, qui a été mise par écrit, aussi d'ailleurs sous l'action de l'Esprit, l'Esprit veillant à tout cela. Et le verset bien connu de la seconde épître à Timothée, chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu », littéralement même, c'est pas inspiré, c'est les hommes qui étaient inspirés, ils avaient l'Esprit en eux, et toute écriture est dite plutôt « spirée » simplement, elle est produite par le souffle de Dieu. Voilà ce qu'on veut dire lorsqu'on évoque l'inspiration de Dieu. Mais alors, les points principaux sont les suivants maintenant. Avant que j'en vienne aux quatre grands attributs, il s'agit de savoir si ça c'est valable seulement très en gros, ou bien si c'est valable de manière intégrale 100%. Et ce que la Bible elle-même nous enseigne, et si elle nous trompait là, alors elle ne serait plus fiable du tout, elle ne pourrait plus valoir du tout comme parole de Dieu, c'est que c'est du 100%. C'est que c'est une parole que Dieu a voulu faire émettre par ses prophètes pour tous les temps et d'une manière qui ne laisse aucun détail au hasard humain. Dieu, par son esprit, a fait que ce soit entièrement sa parole qui soit le résultat de l'inspiration. Toute écriture est inspirée de Dieu, spirée par Dieu, produite par son esprit. C'est en gros et en détail. Voilà ce que la Bible affirme très très clairement et ce qui est la confession évangélique face à des courants dans le christianisme moderne qui ont nié cela. Et très très tragiquement, parce que ça affaiblit radicalement le christianisme même. Ce n'est pas juste un message à travers beaucoup d'opinions humaines qui serait comme du papier d'emballage. Nous avons le message de Dieu tout pur, en quelque sorte, dans la Bible et dans chaque portion de la Bible. C'est ça ce que l'on appelle parfois l'inspiration plénière. C'est plénier, c'est plein. C'est du 100%, ou encore inspiration verbale, parce qu'on ne peut pas dire « Ah oui, c'est le message, mais les mots ne sont qu'humains. » L'apôtre Paul, au chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens, dit qu'il exprime ces choses dans les mots, parce qu'on peut traduire mots, on peut traduire aussi paroles, certaines traductions disent discours, mais on peut traduire dans les mots qu'enseigne l'esprit, non ceux qu'enseigne la sagesse humaine. Et c'est bien pour ça que nous voyons les hommes du Nouveau Testament qui insistent sur les mots, sur le fait que, par exemple, dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, la Genèse ne parle pas simplement d'une postérité, de plusieurs postérités, mais d'une postérité pour la promesse. Le singulier là est mis en valeur, et Jésus de même, dans Jean 10, s'appuie sur une parole d'un psaume, le psaume 82. Donc une inspiration qui va jusqu'aux mots. Un grand théologien auquel nous sommes redevables, il s'appelait Warfield, qui enseignait à Princeton, a montré, en étudiant les passages, qu'on peut dire que tout ce que l'Écriture dit, Dieu le dit. C'est la formule. Tout ce que l'Écriture dit, Dieu le dit. Et on peut le prouver par plusieurs passages. Alors ça nous conduit à affirmer quatre perfections de l'Écriture, quatre attributs de l'Écriture. Et là, j'ai des petits dessins aussi. C'est classique. C'est essentiellement une règle. Pensez une règle ou pensez au maître étalon en platine que l'on conserve au pavillon de Sèvres. Il s'agit de l'autorité de l'Écriture comme parole de Dieu, de sa capacité d'être la règle pour toutes nos pensées et toute notre conduite. C'est la chose qui ressort. Si c'est la parole de Dieu, si c'est Dieu le souverain qui parle, alors cette parole a autorité sur nous. Et je signale à ce propos deux choses. D'abord, la formule typique dans le Nouveau Testament, celle par laquelle notre Seigneur Jésus lui-même a renvoyé le diable. Il est écrit. Si c'est écrit, la chose est réglée. Oui. Ça, c'est la première chose que je souligne. Et la deuxième, c'est la perversité d'un argument que certains, parfois, qui ne sont pas évangéliques, font ressortir en disant « Ah oui, mais Dieu est infiniment au-dessus de la Bible, alors il ne faut surtout pas confondre. Moi, j'honore la supériorité de Dieu et je ne veux pas obéir comme ça à la Bible. C'est à Dieu que j'obéis. » C'est tout à fait pervers dans la mesure où la Bible est la parole de Dieu. Si vous avez un deuxième classe qui, à l'armée, dit « Oh, mais j'honore tout à fait l'autorité du capitaine, mais l'ordre qu'il me donne, ça, je peux le mettre de côté. » Vous allez voir comment il se fera ramasser, bien sûr. L'autorité du capitaine s'opère, s'exerce par le moyen de son commandement. Si nous dégradons la Bible sous prétexte d'exalter l'autorité de Dieu, en fait, c'est vraiment absurde. C'est pas ses commandements et ses promesses et ses enseignements que le Seigneur exerce son autorité sur nous. Deuxième grande propriété, la sûreté de la Bible, la vérité de la Bible. Et je représente un rocher, simplement. Un rocher pour représenter cette fondation, elle ne risque pas de nous faire défaut. Ses paroles sont vraies, ses jugements sont vrais, justes et véritables. La Bible le répète. Et c'est l'idée de quelque chose qui tient à jamais. Et la pointe de l'autorité et de la sûreté-vérité, c'est ce qu'on appelle l'inhérence. Un terme technique qui vous paraît peut-être barbare. Ça veut dire simplement qu'il n'y a pas d'erreur. Il est impossible de dire c'est vrai et c'est une erreur. C'est pas impossible. C'est une chose sûre et c'est une erreur. C'est impossible, ça va pas ensemble. Si vraiment la Bible est entièrement vraie, il n'y a pas d'erreur dedans. Elle peut citer l'erreur que fait un homme, mais ça, ce que la Bible dit, c'est que cet homme a fait une erreur. Ce n'est pas l'auteur biblique, parlant au nom de Dieu, qui fait une erreur à ce moment-là. Et la même chose pour l'autorité. Je peux pas dire, je respecte l'autorité, si je dis, en même temps, c'est une erreur. Donc, la pointe, en quelque sorte, pour l'autorité et la vérité, c'est ce qu'on appelle l'absence d'erreur, infaillibilité ou inerrance. Oui. Troisième attribut, vous connaissez une lampe, une lampe de bureau, c'est la clarté. La clarté de l'écriture, qui veut dire non pas que tous les passages sont faciles à comprendre d'emblée. L'apôtre Pierre dit lui-même que c'est pas comme ça dans les épîtres de Paul. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Mais clarté dans ce sens, d'une part, que c'est pas un langage ésotérique. C'est pas du Nostradamus, c'est pas des grimoires qui chercheraient un langage seulement pour initier. C'est le langage ordinaire que Dieu a choisi de parler et il nous offre d'essayer de comprendre. Et puis, plus précisément, Dieu a fait en sorte, en particulier par la répétition des choses les plus importantes, que le message central, celui dont nous avons besoin pour vivre et pour vivre éternellement, lui éclaire. Et si quelqu'un veut se soumettre entièrement à l'autorité de la Bible, même s'il n'a pas tout un appareil de connaissances techniques à apporter, mais s'il demande au Seigneur, guide-moi, il trouvera le sens du message central. Amen, en effet. Il pourra se tromper sur tel point de secondaire, ça c'est sûr, mais il trouvera le message central. Je peux rappeler d'ailleurs que même sur des questions relativement précises, le Seigneur peut guider des gens qui n'ont pas beaucoup de livres à la maison, beaucoup de... Vous vous rappelez notre sœur Madame Riclin ? Elle était repartie dans le sud-ouest pendant longtemps, mais Madame Riclin avait reçu une Bible, une fois, dans son pavillon, par des témoins de Jéhovah qui étaient passés, qui à l'époque... Heureusement, n'avaient pas leur propre traduction qui tord un peu les textes et qui utilisaient en France la Bible Second. Et puis, elle a lu la Bible, toute seule, avec le Seigneur qui était là. Et elle est parvenue exactement à la conviction qui est la nôtre. Ensuite, quand je ne me rappelle plus comment, elle a été en contact avec quelqu'un du tabernacle. Mais c'était ça, elle avait bien vu que c'était là l'enseignement de la Bible. Sans avoir donc spécialement de commentateur, de théologien pour l'aider, le Seigneur l'avait guidé dans ses discernements. Puis quatrième perfection de l'Écriture, la nécessité et la suffisance. Une clé, c'est une clé que je représente. Si vous n'avez pas la clé... C'est vraiment très difficile, hein, à moins que vous soyez très costaud pour casser la porte. La clé est absolument nécessaire. Mais si vous l'avez, ça suffit. Vous ouvrez et ça y est. Je pense qu'on peut dire que quant à la porte de la connaissance personnelle du vrai Dieu, la Bible est à la fois nécessaire dans notre situation présente, puisque le Seigneur Jésus n'est pas présent visiblement, mais est suffisante. Il n'y a pas à rajouter autre chose. Étant bien entendu, je l'ai dit, que l'Esprit de Dieu accompagne ce livre qu'il a fait produire, qu'il est lui toujours présent aujourd'hui. Alors si nous répondons ainsi à la question de quelle façon la révélation est-elle dans la Bible, comment en être sûr? J'ai déjà un petit peu touché ce sujet à propos du vrai Dieu la fois dernière, donc je vais être... extrêmement bref, il ne s'agit pas de tout dire, pas du tout. C'est un discours qui pourrait s'étendre sur des heures et des heures. Toute l'accumulation des indices, et puis le secret du cœur, des choses qui ne peuvent pas se dire, mais le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Je souligne trois éléments. Je ne sais pas si quelqu'un peut deviner ce que j'ai voulu représenter par ce petit schéma. Il s'agit Non, c'est pas un sablier. J'ai voulu faire une forme géométrique assez facile à dessiner simplement. C'est l'accomplissement des prophéties. Vous avez certaines choses qui sont annoncées par les prophéties de l'Ancien Testament. C'est comme du pointillé. Vous avez des mots, des images, etc. Et puis, l'événement correspond à l'accomplissement des prophéties. C'était le grand argument des apôtres avec la résurrection de Jésus-Christ. Les prophéties accomplies. Blaise Pascal a dit les prophéties sont la plus grande preuve de Jésus-Christ. C'est quelque chose de très impressionnant de constater cette correspondance entre les mots des siècles avant. Seul Dieu est capable de révéler ce qui va se produire parce qu'il est le seul souverain, comme souligne le prophète Ésaïe. Alors je pense qu'on peut dire que c'est une première chose très impressionnante pour authentifier la révélation de Dieu dans la Bible, toutes ces prophéties anciennes et anciennement accomplies déjà ou plus récemment. Je souligne un argument spécialement mis en valeur par saint Augustin, puis repris ensuite. C'est d'autant plus impressionnant que ces prophéties ont été conservées par les Juifs, qui refusent de voir l'accomplissement. Comme ça, personne ne peut dire « Ah, mais c'est vous qui avez trafiqué les textes. Vous avez changé les mots pour que ça corresponde aux événements. » Les Juifs refusant de voir l'accomplissement historique sont cependant ceux qui ont gardé les textes. Et ça nous permet donc la confrontation des deux. Deuxième grande ligne, un magnifique bouquet. Si vous n'avez pas de billet. C'est l'harmonie symphonique. L'harmonie comme celle d'un bouquet que l'on a dans l'Écriture. Là aussi, je pense qu'on peut dire que c'est unique. Le Coran a été écrit par un seul homme en quelques années. Prétendument reçu par révélation, mais c'est un seul. Un seul prophète. Et encore, on peut se demander s'il n'y a pas deux ou trois endroits un peu contradictoires. La Bible a été écrite sur 15 siècles par des gens de toutes sortes et en trois langues au total, parce qu'il y a quelques passages qui sont aussi en araméen. Vous avez donc là une diversité extraordinaire, et moi je m'émerveille depuis que je l'étudie, ça fait un certain bout de temps. Je m'émerveille de l'harmonie. C'est comme l'harmonie d'une symphonie ou d'un beau bouquet. Donc ça, c'est un deuxième trait. Et puis le troisième est plus négatif. Mais c'est très précieux aussi. Ça représente un rempart. C'est un rempart que notre Dieu, c'est un rempart que la parole de Dieu, sans faille. On ne peut pas la prendre en défaut. Nous avons confessé l'inhérence de la Bible comme un aspect de son autorité, mais là, c'est par la foi que nous le disons. Mais si on essaye de voir ce que reproche à la Bible ses critiques, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de précis. Si vous comparez aux autres textes sacrés d'autres religions, je crois vraiment qu'on peut dire que le contraste est net. Bien sûr, il y a des passages qui sont représentés comme des erreurs par ceux qui prétendent qu'il y a des erreurs, mais dans tous les cas, on peut dire non, c'est pas prouvé. Nous n'avons pas la solution pour tout, nous ne prétendons pas du tout avoir la solution de toutes ces difficultés, parce que notre ignorance, le contexte, les mœurs de l'époque, etc., ne nous permet pas de le savoir. Mais je pense qu'on peut dire qu'il y a une chasteté de la Bible qui on ne peut pas la prendre en flagrant délit d'erreur sur aucun point, contrairement aux paroles humaines. Et là, je voudrais évoquer un livre que j'ai évoqué déjà parfois, mais qui est déjà un peu ancien, mais du docteur Macmillan, Maladie ou santé à votre choix, qui montre à quel point, du point de vue de la médecine et de l'hygiène moderne, les prescriptions de la Bible sont vraiment les meilleures qu'on pourrait donner. parfaitement adapté pour la meilleure santé. Alors que, si vous lisez les textes d'autres peuples de l'époque, etc., tout, ces remèdes incroyables, la bouche de vache sur une plaie, le contraste est saisissant. Voilà un signe qui mérite d'être mis en valeur. Et puis ici, j'ai un livre très très utile, je pense que ceux de l'ami, je ne sais pas s'il y en a beaucoup maintenant, mais pourraient connaître déjà, du docteur William Campbell, qui a travaillé en Afrique du Nord pendant longtemps, « Le Coran et la Bible à la lumière de l'histoire et de la science ». Et dans cette comparaison qu'il fait entre la Bible et le Coran, il montre très très bien la supériorité de la Bible, si l'on juge, si l'on prétend juger au nom de la science actuelle. Comme il y a des propagandistes de l'islam qui disent le contraire. Le docteur Bukhari, par exemple, il réplique et sa démonstration est, à mon avis, très très bien menée. Et puis finalement, quel guide suivre pour alors bien recevoir la Bible? Parce que notre cœur est tortueux par-dessus toute chose, le cœur humain, et même si la Bible est claire, il est facile de voir que beaucoup de gens lui font dire le contraire de ce qu'elle dit, qu'il y a des distorsions. Alors, quel guide suivre? Il y a en gros quatre propositions, quatre façons, et puis les trois premières reviennent toutes à donner à l'homme barre sur la parole de Dieu, et donc à permettre au cœur tortueux de l'homme de faire dévier les choses, et c'est la quatrième solution que nous essayons d'adopter. Première solution, voilà, ça, c'est censé représenter le prêtre à son bureau, qui parle devant l'amphi. Première solution, c'est la raison humaine. La raison humaine, armée de certitudes prétendues scientifiques ou philosophiques, qui prétend dire, voilà dans la Bible ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut comprendre. Voyez, parce que c'est évident pour la raison. C'est la voie qui correspond à ce qu'on appelle en théologie le libéralisme ou le modernisme. La raison humaine, avec telle ou telle philosophie, généralement à l'arrière-plan, il y en a plusieurs qui ont servi de référence, s'arroge le droit de juger et de déterminer donc le sens ultime des Écritures. Alors c'est une sous-estimation dramatique des effets du péché de l'homme sur sa raison, c'est une expression de l'orgueil humain, me semble-t-il, et on voit bien le résultat dans les interprétations libérales ou modernistes de la Bible, vide la Bible, le message de son contenu, de son cœur. On aboutit à cette situation que l'apôtre Paul évoque dans la deuxième épître à Timothée. Il garde la forme de la piété, mais il renie ce qui en fait la force. Parce que ce qui fait la force du message biblique n'est pas conforme au choix du cœur humain pécheur, de la raison humaine selon le monde. Et du coup, quand on prend pour guide la raison humaine, on élimine ce qui est le cœur du message. Deuxième possibilité, c'est l'enthousiaste, c'est le prophète prétendu, c'est la solution illuministe. Le Seigneur m'a illuminé, je sais ce que ça veut dire. Alors, vous avez des formes plus ou moins accentuées, d'ailleurs aussi pour le premier schéma, c'est plus ou moins accentué. La raison est plus ou moins orgueilleusement établie au-dessus des textes. Ici, c'est le sentiment de celui qui croit avoir reçu une illumination du Saint-Esprit qui se déclare plus ou moins au-dessus du texte pour en déterminer le sens. au maximum, pourrait-on dire, il y a un prophète qui prétend avoir une autre révélation qui se surajoute à la Bible, comme par exemple Joseph Smith et les Mormons. En fait, Joseph Smith, qui a reçu prétendument ces tables de révélation, et cette révélation se surajoute à la Bible, et bien sûr, conduit à tordre l'enseignement de la Bible. Mais chez d'autres, c'est un peu plus subtil. Et puis, ça peut atteindre même jusque à chaque chrétien qui, parce qu'il a eu le sentiment au moment où il priait, que c'est le sens du texte biblique, dit « Le Seigneur me l'a montré ». Mais il n'a pas d'argument, il n'a pas de raison, et le cœur humain peut jouer des tours à cet endroit-là. Il faut discerner les esprits, et l'esprit humain aussi, et ne pas confondre avec le Saint-Esprit. Donc, cette deuxième solution, elle laisse trop vulnérable aux déviations nées de l'esprit humain ou nées éventuellement de l'influence d'autres esprits. Troisième possibilité, vous connaissez une crosse épiscopale, une mitre, il s'agit de suggérer que c'est le magistère d'une institution. Et bien sûr, dans nos pays, nous pensons tout spécialement à ce que l'Église catholique romaine a traditionnellement affirmé à propos de son autorité. Les fidèles n'avaient pas le droit d'interpréter la Bible eux-mêmes, mais c'est sous l'autorité du magistère. Et ce que Luther disait, c'est que, en fait, cette solution, elle revient tout à fait à celle-ci. C'est moins échevelé, moins excité, mais finalement, au nom du Saint-Esprit, car c'est au nom du Saint-Esprit que le magistère catholique croit rendre un service à la parole de Dieu, au nom du Saint-Esprit, on fait que concrètement, les sentiments humains, là c'est pas seulement d'un individu, mais c'est de toute une grande organisation, les sentiments humains prévalent sur la parole de Dieu, et dans certains cas, il nous semble assez clair qu'elle la muselle, qu'elle l'empêche de retentir et de corriger les choses dans l'Église comme il le faut. Alors quelle est la quatrième voie? La quatrième voie, c'est que l'Écriture elle-même nous serve de guide pour sa lecture. Si ce ne doit pas être l'esprit humain qui si facilement s'égare, alors il faut que ce soit la parole de Dieu elle-même qui nous guide pour la compréhension de la parole de Dieu. Alors je ne développe pas la manière dont cela se fait, parce que ce serait de nouveau tout un sujet, puis là nous atteignons la fin du temps, mais je signale un type d'application du principe. C'est la comparaison des passages de la Bible entre eux. En pratique, ça joue un très très grand rôle. Comment bien comprendre la Bible? On tombe sur un passage un peu difficile, eh bien on cherche les autres passages qui parlent du même sujet, qui emploient les mêmes mots. C'est pour ça qu'une concordance peut être très utile, ou une Bible d'étude, comme la Bible d'étude du Semeur. On étudie chaque partie à la lumière du tout biblique. On compare, et c'est ainsi que la Bible elle-même nous sert de guide pour la comprendre. Alors c'est cette dernière voie que nous essayons de suivre, et que j'ai essayé de suivre, même aussi dans l'exposé que je viens de faire. Il y a juste quelques minutes pour des questions éventuellement. Monsieur Sidamon ? Alors, c'est un point effectivement délicat. Dans 2 Timothée 3,16, vous avez deux traductions qu'on peut dire sans doute possibles. En tout cas, il y a des choix divers selon les commentateurs et les traducteurs. Toute écriture est inspirée de Dieu, ou toute l'écriture est inspirée de Dieu. Il y a aussi un autre choix, on peut aussi traduire « toute écriture inspirée de Dieu est aussi utile » ou bien « toute écriture est inspirée et utile ». Il y a deux éléments de choix par rapport à l'original. Ce qui est clair, c'est que même si c'est toute écriture, ce que finalement, moi je crois plus juste, Ça ne veut pas dire n'importe quel livre sacré de n'importe quelle religion, ça. Non, non. Il est clair qu'il s'agit des saintes lettres, des saints écrits dans lesquels Timothée a été instruit dès son enfance. Donc, il s'agit des écrits bibliques, seulement. Alors, si c'est toute l'écriture, ça veut dire prise comme un tout, toute la Bible, et si c'est toute écriture, ça veut dire tout passage de l'écriture. Comme il n'y a pas l'article en grec, en grec ça correspond à peu près à l'usage français, que ce n'est pas, il n'y a pas d'article le avant écriture, je pense plutôt que c'est toute écriture. Ça correspondait au premier sens, à la première lecture. Mais l'autre, ça veut dire tout passage de l'écriture. C'est comme ça que je paraphraserais et je considère que c'est là le sens. Madame Van Vaux. Alors, notre sœur met l'accent sur l'amour, et l'amour pratiquement ineffable, qui est en nous pour nous diriger. Alors, sur ce point, je dirais deux choses, il faut que je réponde très brièvement. La première, c'est que, quand il s'agit de notre conduite, en particulier, c'est effectivement très très important. Pour les actes que nous avons à poser, et à poser en rapport avec les autres aussi, puisque l'amour de Dieu et l'amour de nos frères et sœurs et du prochain ne sont pas dissociables, bibliquement, c'est la motivation, le guide, qui doit nous servir. Bien sûr, dans la lecture de la Bible, il est très important que nous aimions sa parole, que nous aimions la vérité. Dieu a dit, par l'apôtre Paul, dans la seconde épître à Thessaloniciens, chapitre 2, qu'il a envoyé un esprit d'égarement pour les hommes qui croient n'importe quoi, on le voit bien autour de nous, parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Donc c'est vrai que l'amour de la vérité joue un rôle très important dans notre étude de la Bible et notre recherche de son sens. Mais le piège auquel il faut échapper, c'est de dire, parce que je sens ça très fort, alors je peux être sûr que c'est la bonne interprétation que j'ai donnée. Là, il faut avoir des raisons bibliques pour le dire. Oui, d'accord. Bon, Monsieur Berger et Monsieur Weyenberg, et puis ce seront les dernières remarques, puisque c'est l'heure. Monsieur Berger.
Juste avant de mon témoignage personnel, avant de me convertir, je me disais, je vais lire la Bible pour pouvoir dire que je l'ai lu. C'est une lourde. Et je l'ai lu entièrement, et je peux dire maintenant que j'ai rien compris. Mais quand le Seigneur m'a converti, j'ai ouvert la Bible et c'était devenu un livre ouvert pour moi.
Merci, merci bien. Monsieur Weyenberg.
C'est une question naturellement que j'ai lu une fois que je me réveille. Il n'y a pas de meilleur commentaire sur la Bible que la Bible, bien sûr. Quand nous cherchons à comparer des textes entre eux, est-ce qu'il n'y a pas un danger que nous sortons d'un texte, de ce contexte, ce qui peut être autre chose, et qu'il y a des exemples où la Bible peut le faire elle-même, parce que nous avons que Paul est un pauvre que le rectifoire contre l'homme, il n'y a aucun qui se vient, mais il peut le dire exprès. C'est une parole qui fonde plusieurs choses.
Alors le danger auquel nous sommes rendus sensibles, pour lequel notre frère nous alerte, c'est celui de sortir un texte de son contexte. Bien qu'ils disent, on trouve ça parfois dans la Bible elle-même. La Bible peut parfois le faire, mais elle avait en quelque sorte l'autorité pour le faire, alors que pour nous c'est dangereux. Alors, il est sûr que sortir un texte de son contexte, c'est très dangereux. C'est une façon pour nous aussi de prendre barre sur la parole au lieu de nous laisser guider par elle. Une parole a un contexte. Ça fait partie de son être de parole. Donc, il faut respecter ce contexte. Et ce que je considère, moi, comme un contraste extrêmement encourageant et puis instructif, c'est le contraste entre ce qui se faisait dans la communauté des grottes de la mer morte, la communauté de Qumran. Là, ils sortaient les prophéties de leur contexte complètement, aucun souci du contexte. Le contraste avec le Nouveau Testament est saisissant. Dans le Nouveau Testament, je pense qu'il est tenu compte du contexte. Bien sûr, le contexte n'est pas toujours évoqué. L'important, c'est qu'il soit respecté. Et je reconnais que parfois, on peut avoir l'impression qu'il est ignoré, qu'il n'est pas respecté. Mais si on cherche bien, je crois qu'on trouve qu'il est respecté. J'ai fait autrefois ce qu'on appellerait aujourd'hui un mémoire de maîtrise, c'était Bachelor of Divinity, sur Melchisedec. Et il y a bien des gens qui, devant les choses dites de Melchisedec au début du chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux, poussent des hauts cris, mettent les bras en l'air en disant, mais enfin, ça n'a ni rime ni raison, sans père, sans mère, mais qu'est-ce... En fait, si on comprend, je crois avoir pu montrer qu'en fait, si, c'est tout à fait ce qu'on peut et ce qu'on doit dire, comprendre dans le sens de l'auteur aux Hébreux. Mais parfois, je reconnais que trouver les raisons du contexte n'est pas immédiat, il faut un certain travail d'interprétation. Voilà, mais merci d'avoir suivi maintenant et le Seigneur vous accompagne. Monsieur Vaïté a une annonce.